suivant de vos ateliers. Alors, que voulez-vous, faire les rapports ou que je fasse l'exposé et que les rapports viennent ensuite? D'accord. Bon. Alors, une fois encore, nous allons demander la grâce de Dieu. Si nous n'avions pas ta grâce, nous ne pourrions rien. Nous ne serions rien, mais dans ton amour, nous savons que tu fais grâce. Et nous savons aussi que tu nous as donné ton esprit et que c'est lui qui veut nous posséder et nous diriger dans tout ce que nous dirons. Garde nos lèvres, purifie nos cœurs et que notre mémoire puisse être réveillé aussi et recevoir l'instruction que tu voulais nous donner dans cette fin de semaine. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors je pense que vous avez remarqué qu'on ne peut pas s'occuper de l'espérance sans retrouver bien des vérités dont nous avons déjà parlé. Et en lisant les textes que je vous ai mentionnés, dans celui d'Osée, au chapitre 2, qu'avez-vous trouvé comme exemple d'espérance? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est une porte. Bon, c'est une porte. Quand vous êtes poursuivi, par exemple, et que tout à coup vous trouvez une porte ouverte, vous vous y précipitez, la porte se ferme, et vous êtes à l'abri. Donc l'espérance nous met à l'abri de danger. Et puis, une porte, c'est aussi vraiment une issue, et c'est ce qu'est l'espérance. Il y a une issue. Vous avez lu donc Osée, chapitre 2. Et nous le mentionnons une fois encore, verset 16. Voici moi, je la conduirai au désert. Quelquefois, le Seigneur, pour nous parler, il nous mène à l'écart. Hein. Et au désert, que peut-il nous dire? Je parlerai à son cœur. Hein. Et ce matin, nous vous avons dit ce qu'il nous avait donné. Mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il continue de parler à nos cœurs aujourd'hui? De là, donc, de ce désert, il n'y a pas besoin de changer de place. De là, je lui donnerai ses vignes. Les vignes sont, dans l'Écriture, le symbole de la joie, hein, puisque la vigne produit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. De là, je lui donnerai ses vignes. Donc, au sein même du désert dans lequel on se trouve, on peut trouver de la joie. Et la vallée d'Achor, qu'est-ce que c'était que la vallée d'Achor? C'est la vallée où a été exécuté Achan et sa famille. Et on l'a appelée vallée d'Achor parce que Josué lui dit « comme tu nous as troublés ». De sorte que la vallée d'Achor, c'est la vallée du trouble. Quand vous êtes dans cette vallée-là, vallée du trouble, il y a plusieurs vallées qu'on pourrait étudier. Il y a la vallée de l'ombre de la mort, hein, mais vous ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il sera avec vous. Mais quand vous êtes dans la vallée du trouble, eh bien, au lieu de rester troublé, cette vallée du trouble va vous conduire à une porte d'espérance. C'est cela qui est merveilleux. La porte qui vous libère de cette vallée du trouble, c'est une porte d'espérance. Elle y chantera aussi comme au temps de sa jeunesse. On a un renouvellement de vie, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est-à-dire, on se souvient de la grande délivrance qui a été la nôtre et qu'on attribue uniquement au Seigneur. Donc, l'espérance peut être comparée à une porte. Maintenant, dans le deuxième passage que vous avez lu, c'était Hébreux 6. Je pense que là aussi, vous avez pu comprendre facilement. Au verset 13e, nous lisons dans Hébreux 6, « Comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant, « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Est-ce qu'Abraham a cru ? Oui, il est dit qu'il crut Dieu dans un autre passage. Et cela lui fut compté à justice. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu. Donc, quand on parle d'espérance, il faut se souvenir que ça veut dire aussi une attente. On attend la délivrance. Après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment en confirmant leurs paroles est un terme à toute contestation. Donc nous pouvons avoir, au sujet de l'espérance, une conviction et non pas partager simplement une opinion selon le temps et les circonstances. En ce sens, Dieu voulant prouver, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision. Est-ce que nous sommes convaincus de cela ? Que quand c'est Dieu qui parle, eh bien, sa décision est immuable. Il intervient par un serment afin que par deux actes immuables, dans lesquels, qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? C'est de nous mentir, mais il faut que ça nous habite, cela. Alors, il faut que les promesses vous soient rappelées par le Saint-Esprit. Il ne faut pas essayer de piquer un verset dans l'Écriture, vous ouvrez la parole, puis vous tombez plus ou moins bien, puis vous êtes déçu. Alors, vous refermez la Bible, vous reprenez. La Bible, ce n'est pas un livre où on pique des versets. Comprenez-vous ? Il faut en avoir la connaissance. C'est pour ça, quand on lit un livre, vous lisez depuis la première page à la dernière. Et je voudrais bien qu'ici, on a peine à lire la parole comme cela. Je sais très bien que vous avez des feuillets de lecture régulière. Bien, c'est très bien, c'est la lecture qu'on appelle lecture dévotionnelle. Mais ça, ça ne suffit pas pour faire des progrès. Parce qu'alors, vous prenez juste le passage du jour. Il vous faut une connaissance biblique, depuis la première page à la dernière. Et vous serez bénis si vous lisez ce livre de cette manière-là. Afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors il nous faut bien être au courant de cette espérance qui nous est proposée et il nous faut la saisir. Cette espérance, elle est qualifiée ainsi, nous l'avons comme une ancre. C'est tellement beau, hein. Vous voyez le bateau qui jette l'ancre, il peut y avoir des tempêtes, il reste ancré. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre faible ? Non. solide et ferme pour notre âme? Est-ce que votre âme est ancrée dans le Seigneur? Parce que l'espérance, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il peut vous manquer? Non. Elle pénètre au-dedans du voile. Vous voyez que ce n'est pas sur la terre. Cela va où? Notre ancre, nous sommes ancrés au ciel. Alors comprenez bien cela. L'espérance chrétienne vous ancre au ciel. C'est cela mon pays, c'est cela ma patrie. Nous sommes bourgeois des cieux, nous sommes gens de la maison de Dieu. Et d'où attendons-nous le Seigneur? Selon Philippiens 3, nous attendons le Seigneur du ciel, qui transformera le corps de notre misère, de notre abaissement, en la conformité de son corps de gloire, n'est-ce pas? Nous aurons un corps semblable à lui. Selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, lisons-nous dans Philippiens. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, donc c'est dans le ciel, là où Jésus est entré. Pour nous, comme un précurseur, ça veut dire que nous y entrerons, nous aussi, après lui. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous recevra comme qui? Comme il a reçu son Fils. Voilà ce que, dont vous devez être assuré. Voilà votre avenir, car il y a un avenir. On l'a vu ce matin, il y a un avenir. Et quand vous êtes convaincu de cela, tout est transformé. Où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et là, je vous rappelle ce psaume 84 qui nous a occupé dans notre dernière réunion à la communauté où nous participons le mercredi soir à Montréal. Le Seigneur nous dit qu'il voit tout, il nous voit. Mais en même temps, il voit son Fils. Regarde à ton loin. Et je trouve ça merveilleux. Si nous avons des réponses, c'est parce que Dieu, le Père, regarde à l'œuvre de son Fils. Il regarde à son loin. Et à cause de l'œuvre de son Fils, il nous donnera tout. Donc, c'est merveilleux de penser que notre espérance est semblable à cette ancre. Et puis, en dernier lieu, vous l'aviez cité dans vos études précédentes, qu'est-ce que c'est comme image? Le casque, hein, Hébreux, chapitre 6. Et vous pouvez même encore mettre Éphésiens chapitre 6, où il y a toutes les autres armes, vous les avez mentionnées, n'est-ce pas? Les armes défensives et les armes offensives. Il y en a combien en tout? 7. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, vous avez ces armes. Mais dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est parlé au chapitre 5 du casque. Et le casque, où l'a-t-on? Au pied ou sur la tête? Vous l'avez dit aussi. Sur la tête, n'est-ce pas? Et ça enveloppe, ça vous préserve dans quoi? Dans vos pensées. Ne laissez pas, n'est-ce pas, vos pensées être troublées. Vous avez un casque qui vous garde dans vos pensées en Christ. Et nous lisons encore ce texte, parce qu'il faut que la Bible vous pénètre, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est pour le monde. Hein. Le monde ne s'y attend pas. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est à quoi ils travaillent, ils essayent de travailler, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux. Alors qu'est-ce que vous attendez du monde? Que ce soit de la Russie ou que ce soit des États-Unis, tout ce qu'ils voudront faire, eh bien, vous le savez, vous ne mettez pas votre confiance dans ces choses-là. Quand ils croiront être arrivés là, une eau subite tombera sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Ce n'est pas les hommes qui vont amener la transformation. Vous pouvez en être sûr. Et ce n'est pas l'Église qui va transformer le monde. Ça, c'est une erreur. L'Église, elle est en pleine apostasie. On fait un tas de choses, mais on n'est pas du tout dans la ligne du Seigneur. C'est cela qui est tellement triste. Dans les églises, maintenant, on a abandonné la fidélité à la parole. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi, vous savez ce que c'est, et de l'amour, parce que ça va ensemble, on ne sépare pas les grâces, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Vous voyez qu'il y a les trois choses, hein, la foi, l'espérance et l'amour, la charité. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Est-ce que c'est la colère que vous attendez? Non. Mais est-ce que la colère vient sur ce monde? Oui. N'est-ce pas? Lisez le chapitre 1er de les Romains, où dans les Thessaloniciens, nous apprenons que nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Mais ce qui vient sur ce monde, c'est la colère. Et ne croyez pas ceux qui vous disent que le monde va s'améliorer grâce à tous les efforts que nous faisons pour évangéliser. Continuons d'évangéliser, mais comprenons que la vraie évangélisation, c'est une vie à la gloire de Dieu. Quand chacun vivra à la gloire de Dieu, eh bien, il y aura du fruit. Quand dans notre travail, dans la fidélité que nous avons à manifester dans les petites choses, le monde s'apercevra que nous sommes d'authentiques chrétiens. Parce que c'est cela qu'on attend. On peut être impressionné par des messages, on peut faire toutes sortes de choses. Ce n'est pas cela qui comptera. Et puis quand on nous parle toujours des guérisons, et que quand c'est vraiment l'évangile, il y a une puissance de guérison. Je voudrais bien les voir, toutes ces guérisons dont on parle tant. Et puis, qu'est-ce que vous espérez avec tout cela? Ne pas mourir? Quand vous êtes guéri, vous allez au-devant de quoi quand même? Au-devant de la mort, alors. Et il faut savoir ce qui est le meilleur. Paul, il s'en préoccupait plus. Il disait, pour moi, vivre, c'est quoi? C'est le Christ. Hein. Et puis mourir, c'est une catastrophe? Non. Si j'ai fini mon temps, eh bien, c'est un gain, car pour moi, être auprès du Christ, c'est beaucoup le meilleur. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, donc nous n'attendons pas la colère, mais à la possession du salut. Ce que nous n'avons pas encore, c'est le salut complet, total. Mais nous savons que nous sommes destinés à cette possession du salut, par qui? Par notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites. Alors, ça c'est notre tâche, nous devons nous exhorter les uns les autres, mais toujours par la parole et pouvoir donner une parole de grâce à quelqu'un qui se trouve dans un moment de découragement. Mais vous ne laissez pas la pensée vous aborder que Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas juste. Tout est écrit dans la Bible. Alors, nous devons nous conformer à cet enseignement. Alors, ayez l'espérance comme un casque pour vous préserver de toutes les pensées qui pourraient venir du doute. Et le doute vient de qui ? De Satan. Et qu'est-ce qu'il est, Satan ? Un menteur. Alors, on ne croit pas le mensonge. C'est un menteur, ça n'arrive pas. Maintenant, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil aux expressions caractérisant l'espérance ? Oui ? Pas beaucoup. Non. Mais on va aller les voir. Hein. Cette espérance, ce qui la caractérise, elle est d'abord vivante. Et qui est-ce qui en a parlé d'une espérance vivante ? C'est l'apôtre Pierre. Hein. L'apôtre Paul a surtout parlé de la foi. Il a aussi parlé de l'espérance. Mais l'apôtre Paul a présenté la foi. L'apôtre Pierre, il a présenté spécialement l'espérance. Et c'est ça qui est magnifique. Et qui est-ce qui a présenté l'amour ? L'apôtre Jean, n'est-ce pas ? Voilà les apôtres. L'apôtre Paul nous présente la foi. L'apôtre Pierre nous présente l'espérance. Et puis, l'apôtre Jean nous présente l'amour. Mais, évidemment, en même temps, il nous parle de toutes ces choses. Mais je prends ici, dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre. Vous voyez, alors, quand on nous dit, quel est le plus beau livre du Nouveau Testament ? Qu'est-ce que vous répondez ? Celui qu'on est en train de lire, hein, c'est ça, oui. Le plus beau livre de la Bible, c'est celui qu'on est en train de lire. Et c'est toujours nouveau, et on reçoit toujours une grâce et une bénédiction. Dans l'Ancien Testament, le plus beau livre, c'est le dernier que nous venons de lire. Hein? Alors, on est heureux. Et il n'y a pas des pages de l'Ancien Testament que nous mettons de côté. Quand on nous dit, oui, mais vous savez, il y a tous ces noms-là. Bon. Quand vous avez un enfant qui naît, vous les cherchez, les noms. Hein? C'est pas dans la Bible que vous allez les chercher. Hein? Hélas. Trois fois hélas, disait De Gaulle. Eh bien, c'est vrai. Hein? Mais le nom que vous allez donner à un enfant, c'est quand même important. Est-ce que vous êtes mis à genoux pour demander au Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux ? Et il va nous inspirer. Puis ne lui donnez pas un nom dont il souffrira toute sa vie. Mais vous aimiez tellement quelqu'un. Alors vous mettez ce nom-là. Non, quel nom veux-tu donner à mon enfant, Seigneur ? Puis vous vous mettez d'accord avec votre épouse. Je lis au chapitre 1er de Pierre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et pourquoi est-ce qu'il nous a régénérés ? Pour une espérance. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique ? Si vous êtes sauvés, régénérés, c'est pour une espérance. Donc, ça doit vous occuper, l'espérance. C'est pour cela que vous avez été régénéré, pour que vous viviez d'espérance, d'amour et de foi. C'est la vie chrétienne, ça. Alors c'est ça qui doit être normal. Vous êtes régénéré pour une espérance qui est vivante. Alors voilà le mot, une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance morte. Il y a tant d'espérances qui sont mortes. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé où ? Dans les cieux. Et puis, en même temps, sur la terre, vous êtes gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut, donc, qui est complet, et qui nous donne la possession de tout ce que Jésus a accompli pour nous. Un jour, nous l'aurons. Alors, c'est une espérance vivante, et pour illustrer ce que cette vie, qu'est-ce que nous avons ? Sur quoi repose l'espérance vivante ? Sur quoi ? Sur la résurrection de Jésus-Christ. Et les gens n'y croient pas, la résurrection de Jésus-Christ. On nous dit qu'on recherche ses os. Hein ? Oui, des théologiens nous disent ça. Ils recherchent ses os où ? Ben là où il a été crucifié. Hein. On recherche ses os. Jésus serait seulement ressuscité spirituellement. Mais la résurrection corporelle du Christ, on n'y croit pas. Et cela même dans beaucoup d'églises. Alors comment voulez-vous qu'une église soit vivante ? Non, pas d'espérance vivante. Pierre nous invite à croire à une espérance vivante. Maintenant, verset 13. Entière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Complète, il y a une autre version qui dit parfaite. Une espérance qui est parfaite, qui est vraiment complète. Elle est entière. Verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Vous êtes sous le casque. Hein? Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apporté. Donc, quand on attend le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend ? Une grâce toute spéciale qui nous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, alors nous posséderons vraiment tout le fruit de notre espérance. Nous aurons vraiment la possession et pour l'éternité. Mais c'est une espérance qui est complète, qui est entière. Troisième point, troisième expression, nous allons dans Tite, et qu'est-ce que vous y lisez ? C'est très important. Notre espérance, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est bienheureuse. Pourquoi est-ce qu'elle est bienheureuse ? Qu'est-ce qui va se produire si nous sommes vivants au moment du retour du Seigneur ? Est-ce qu'on va mourir ? Non ! Vous ne mourrez pas. Il y a une génération qui ne va pas mourir. Ça, c'est quand même formidable. Parce que la mort, est-ce que la mort c'est une espérance? Non. La mort n'est jamais présentée comme étant une espérance. C'est le salaire du péché. Mais il y a une espérance vivante. Il est possible que nous soyons vivants au moment du retour du Seigneur. Je ne dis pas le jour, je ne dis pas l'heure, puisque nous l'avons vu. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, et nous ne voulons pas devenir des sectaires. Et puis, à cause de tout ce qui a été dit, des dates qui ont été mises pour le retour du Seigneur, beaucoup de gens n'ont plus cru en une espérance du retour du Seigneur. Une espérance vivante, une espérance entière, mais une espérance bienheureuse. Tite, avons-nous dit, chapitre 2, verset 13. Hein. On lirait puis verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, tous les hommes pourraient être sauvés, s'ils le veulent. Mais Dieu ne va pas vous contraindre, Dieu ne va pas vous forcer. Elle a été manifestée. Oui. Quand le Seigneur Jésus est venu, ça a été le dernier mot de Dieu à l'humanité. Il ne peut plus y avoir de nouvelles révélations. Quand on vous dit que vous avez reçu une nouvelle révélation de ce qui va arriver sur ce monde, ce n'est pas vrai. Ce qui a été révélé, l'a été révélé par Jésus, qui est venu le dernier. Après Jésus, il n'y a plus de révélation. Dieu a autrefois parlé de différentes manières et à plusieurs reprises. Par qui ? Par les anciens, par les patriarches, par les prophètes. Et à la fin de ces jours, il nous a parlé dans le Fils. Et dans l'évangile de Luc, il est bien spécifié que Jésus est venu le dernier. Le dernier. Le dernier. C'est pour ça qu'il est toujours parlé de la dernière heure. La dernière heure a commencé quand ? Par la venue du Christ. Il a été le dernier. De sorte qu'il ne peut plus y avoir de révélation nouvelle. La révélation complète est dans l'Écriture, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus ayant choisi ses apôtres pour nous donner tout ce qui était essentiel au sujet des choses éternelles. Il n'a pas pu en parler beaucoup de ces choses éternelles lui-même, parce qu'il disait à Nicodème, « Si quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas cru, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ?» Alors, il en a parlé par le moyen des apôtres. Et les apôtres n'ont donné que ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Paul dira, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et le Seigneur lui-même disait qu'il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par son Père. Alors la révélation, elle est complète. Nous savons ce qui va arriver dans ce monde. Le monde va au-devant de la ruine. Et puis le temps du retour du Seigneur, il a été clairement manifesté dans les épîtres. L'apôtre Paul, le Seigneur lui-même, déjà, nous dit que quand il viendra, le monde sera semblable à quel temps ? Le temps de Noé. Et qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé ? La violence et la corruption étaient dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Violence et corruption. Ce qui n'empêchait pas de bâtir, d'acheter, de vendre, n'est-ce pas ? De faire des affaires. Et même de se marier. Au temps de Noé, on se mariait encore. Mais ensuite, il est parlé des jours de Lot. Jésus le dit, souvenez-vous de la femme de Lot, puis il dit qu'au moment de sa venue, le monde sera arrivé à un temps semblable au jour de Lot. On ne se marie plus. on ne se marie plus. On vit ensemble, comme bon nous semble. Ça nous évite les frais du divorce, tout ce qu'on veut. Voyez dans quel temps nous sommes. Au jour de Lot, on ne se marie plus. Il y a donc une gradation du mal. Puis alors, je ne sais pas ce que vous, comment vous voyez les choses. On fait toute espèce de marche. Hein. Vous les connaissez, ces marches. Puis alors, comme on a marché pour l'homosexualité, il faut bien faire une marche pour Jésus. On imite. Quel bazar. Puis on pense qu'on a témoigné. Mais ce n'est pas cela. Au lieu de marcher, allez dans votre chambre, priez, humiliez-vous. De ce qui ne va pas dans votre propre vie pour qu'il y ait un autre témoignage. Mais non, on préfère marcher. Puis qu'est-ce qu'on fait? On rencontre un tas de monde, puis après on dit, il y avait 60 000, il y avait 100 000, il y avait 1 million de personnes pour Jésus. Vous croyez que c'était pour Jésus? C'était pour eux-mêmes, puis, n'est-ce pas, ils se rassurent par là. Pour qui prenons-nous Dieu? Pour un aveugle? Vous savez, il y a un homme, un écrivain français qui s'appelle Messadier. Vous en avez peut-être entendu parler. Il a écrit un livre, L'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qui devint Dieu. Hein. On ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ. Puis maintenant, alors, il vient d'écrire 2 livres sur Moïse. Alors, c'est romancé, etc. Et puis, il était à la radio un dimanche soir. Et puis, une journaliste lui a demandé, « Alors, M. Messadier, comment est-il Dieu pour vous ?» Comme il n'est pas converti, comme il ne croit pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a rien pu dire. Tout ce qu'il a dit, en tout cas, je ne le vois pas comme un vieillard. C'est tout ce qu'on sait dire, hein. Dieu n'est pas un père, hein, parce que si vous le voyez comme père, vous le voyez toujours comme vieillard. Mais on peut être père et ne pas être vieillard. Hein? Vous croyez qu'on est père seulement quand on est arrière-grand-père? Il n'a pas pu dire qui était Dieu. Tandis que quand vous connaissez le Seigneur, vous pouvez parler de lui. Et on sentait cette pauvreté, cette misère. Mais voilà, il avait écrit sur Moïse. Nous venons à notre bienheureuse espérance. Hein. Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Et c'est là le grand drame. Qui est Jésus? On le met toujours avec les fondateurs de religion. Il n'est pas un fondateur de religion. Il est Dieu, manifesté en chair, au temps convenable, après des siècles de promesses, est-ce qu'il y a eu une révélation de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est né? Oui. Il y a bientôt 2000 ans. Et 1000 ans, d'après l'apôtre Pierre, c'est comme un jour. Et nous arrivons au deuxième jour. Si un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Après 2000 ans, on peut attendre l'accomplissement de sa promesse. Quand nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous l'attendons et nous croyons que cet événement se passera. Jésus reviendra. Mais nous avons été avertis de ne pas croire à tous ceux qui nous disent qu'ils sont l'apparition de Jésus. Car l'apparition de Jésus se fera d'une façon absolument visible dans le ciel. Et il donnera son signalement. Alors, sur la bienheureuse espérance, qui est la première partie de son apparition, en attendant la bienheureuse espérance, c'est ce qu'attendent les croyants, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quand il viendra avec tous les siens. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher, nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Est-ce que nous sommes un peuple qui lui appartient ? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors on nous dit maintenant, et cela, ça m'afflige de voir que ça entre dans des églises évangéliques, qu'il ne faut pas attendre cet enlèvement qui a été l'espérance chrétienne pendant bien des âges. Mais maintenant, non. Nous allons, par nos efforts et par tout ce que nous pourrons impressionner le monde, au point de vue religieux, nous allons le transformer, et quand nous aurons fini notre tâche, nous dirons, Seigneur, tu peux venir. Le boulot, nous l'avons fait. Maintenant, tu peux venir. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ?
Non.
Non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Le monde est mûr pour le jugement et il n'y a plus de remède. C'est par le jugement que le Seigneur régnera. Mais comme il a les siens, il va les enlever d'abord. Est-ce que c'est encore une espérance pour vous ? Eh bien, elle est bien heureuse parce que vous ne passerez pas par la mort. Et puis, si vous devez mourir avant qu'il ne vienne, c'est quand même une bienheureuse espérance, car au moment où il revient, il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, en premier. Donc c'est une bienheureuse espérance. Ils ne seront pas oubliés. C'est là la première résurrection. Or, on nous dit, non, non, il n'y a qu'une résurrection, c'est la résurrection finale. Et vous trouvez des livres qui vous disent cela. Alors, si vous voulez lire la Bible avec ces commentaires-là, vous êtes complètement perdu. C'est pourquoi je vous en supplie, revenez à l'Écriture et à toute l'Écriture. N'isolez pas un texte, mais laissez-vous former par l'ensemble de la parole. Alors, vous aurez des convictions. Cette espérance, elle est bienheureuse parce qu'elle m'amène à la première résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons transformés en la même image. Et avec les morts ressuscités, nous allons auprès du Seigneur. Et alors, il revient pour être manifesté. Tête et corps glorifiés. Quand le Seigneur sera manifesté, on ne verra pas seulement le Seigneur, mais le monde entier verra les croyants unis au Seigneur. Un avec le Seigneur, ne formant plus qu'un seul corps. Le Christ ressuscité apparaîtra avec tous les siens, tous ses rachetés. Et c'est à ce moment-là que la gloire nous sera donnée. C'est pas maintenant. Maintenant, nous devons nous attendre à quoi? Si nous sommes authentiquement chrétiens, à la tribulation. Vous ne devez pas vous attendre à autre chose. Car Jésus a passé par toutes les souffrances. Mais quand il revient en gloire, alors c'est là que se place notre glorification. Chapitre 3 de la deuxième aux Corinthiens. Nous lisons le Seigneur, verset 17, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et ensuite, au chapitre, dans les Philippiens, ou dans les Colossiens, pardon. Colossiens chapitre 3. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est cela que nous devons bien comprendre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, notre vie, elle est cachée en Christ. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est au moment où Christ paraît que nous paraissons aussi avec lui dans la Mais aujourd'hui, nous nous glorifions nous-mêmes et nous nous montrons nous-mêmes et nous ne montrons guère Christ. Donc, vous pouvez comprendre, et j'espère que vous la gardez, cette bienheureuse espérance. Quatrièmement, elle doit être ferme. 1 Thessaloniciens 1:3. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. C'est une espérance ferme. L'apôtre Paul leur avait enseigné ce qu'était cette espérance. Elle était ferme. Dans 2 Thessaloniciens 2:16, qu'est-ce que nous apprenons? Que cette espérance, elle est bonne. Nous lisons. Verset 15 du chapitre 2. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation passagère, éternelle, et une bonne espérance. console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. C'est une bonne espérance. Maintenant, sixième point, elle est unique. Prenez Éphésiens chapitre 4, verset 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ça fait deux. Hein. Un seul corps, un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance. Donc elle est unique. C'est trois. Celle de votre vocation. C'est là notre espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, etc. Donc, c'est une espérance unique. Maintenant, nous avons au 1.7, consolatrice. Alors, c'est le moment de lire ce fameux passage 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, du chapitre 4, la première aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Qui sont ceux qui dorment? Les morts en Christ. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il y en a qui n'ont pas d'espérance. Ce sont ceux qui ne croient pas. En effet, si nous croyons, vous savez, ça me rappelle toujours des réunions que je faisais à Grimby dans l'église romaine et les réactions que je pouvais éprouver. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, puis quand vous vous arrêtez, puis que vous avez tout un auditoire catholique, vous dites, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Bien sûr qu'ils y croyaient. Hein. Et qu'il est ressuscité. On avait célébré Pâques. Est-ce qu'ils y croyaient? Donc ce n'était pas un message autre que celui dont on leur parle. Jésus est mort. Vous y croyez? Oui. Et puis, Jésus est ressuscité, vous y croyez aussi. Alors, croyons aussi. Alors, c'est comme s'ils entendaient cela pour la première fois. Que Dieu ramènera aussi avec Jésus, puisqu'il va les ramener avec Jésus. Il les a pris avant. C'est clair ou pas clair? Puisqu'il va les ramener avec Jésus. Parce qu'il veut les glorifier. Il ramènera avec Jésus, avec lui, ceux qui se sont endormis. Donc les morts en Christ ne seront pas oubliés. Ils seront ressuscités. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après nos idées. Non, mes amis. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons opinion ou conviction? Cela me donne une conviction. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Tant qu'il était en vie, Paul pouvait penser qu'il était aussi pour ce moment-là, puisque dans l'Église primitive, on attendait le Seigneur, ce qui ne paralysait pas du tout l'action évangélique. On n'a jamais évangélisé autant que dans l'Église primitive. Quand vous pensez qu'en 30 ans, sans qu'il y ait les avions et tout ce que nous avons maintenant, l'évangile qui était parti de Jérusalem se trouvait où? À Rome, en ayant passé par Éphèse, la capitale de la sagesse humaine, et par Corinthe, la capitale de la luxure païenne. Et tout cela avait été évangélisé en 30 ans par le témoignage des apôtres, eh bien, l'évangile avait passé de Jérusalem, la capitale juive, à la capitale du monde, Rome. Car le Seigneur lui-même... Oh, où est-ce que j'en étais? 15 secondes. 16, hein? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc laissez de côté tous ces livres qui vous disent que au moment de l'enlèvement de l'Église, il y aura des catastrophes incroyables, etc. Ça, c'est de l'imagination. Hein. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur a un signal. Nous ne savons pas comment il sera ce signal. Mais à la voix d'un archange, il y aura une action angélique dans la création. À la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. C'est clair? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, donc il y a un enlèvement, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et alors c'est après qu'il est dit qu'il revient avec les siens. Hein. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Alors là, il y a toutes les prophéties bibliques que vous pourriez étudier. Mais en tout cas, la bienheureuse espérance, elle est consolatrice. Hein. 1 Thessaloniciens 4, 13. Puis j'ai mis, elle est purificatrice. Pourquoi? Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Premier épître de Jean, chapitre 3, au sujet des effets de cette espérance. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce qu'on peut être sûr de l'être? Oui, si vous l'avez reçu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Mais vous l'avoir reçu. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole ce matin. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous le sommes? En ce 10 octobre. Bien-aimés, nous sommes maintenant, 10 octobre, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, donc quand Jésus revient, il est manifesté. Et à ce moment-là, il a dit, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, nous le contemplons dans la foi, nous le voyons dans le ciel, où le Père le regarde et nous reçoit comme il l'a reçu, et nous exauce pour ce qu'il a fait. Alors, verset 3, quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. Il n'y a pas de vérité plus sanctifiante que l'attente constante du retour du Seigneur. C'est une vérité sanctifiante. Il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des choses que je ne dirai pas. Il y a des choses, des lieux où je n'irai pas. Quand j'attends le Seigneur, il y a une puissance dans cette perspective que le Seigneur vient. Que Dieu nous sanctifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Comme lui. En un instant, en un clin d'œil, nous lui serons rendus semblables. Donc, c'est une espérance purificatrice. Puis nous avons mis aussi que c'est une espérance vraiment céleste, parce que nous sommes un peuple céleste. L'Église est un peuple céleste. Israël est un peuple terrestre. Alors, ces espérances étaient terrestres, mais pour nous, nous avons une espérance céleste. Colossiens 1, verset 3, je veux dire. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'on a la foi? Pourquoi est-ce qu'on a l'amour? À cause de l'espérance. Donc vous voyez l'importance de l'espérance. Parce que vous attendez le Seigneur et que vous avez cette espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc, vous aurez encore une surprise. C'est fantastique quand on pense qu'il y a dans les cieux quelque chose qui nous est réservé. C'est l'espérance d'être toujours avec le Seigneur. Et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Donc vous voyez que l'Évangile, ou l'espérance de l'Évangile, nous devrions la connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier, il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour nous, pour vous, un fidèle ministre de Christ. Et il vous a signalé de quel amour, il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, notre espérance est une espérance céleste. Alors, où prenons-nous nos directions pour vivre sur la terre? D'après ce qui se passe ici-bas? D'après la politique d'un parti? Est-ce que nous sommes liés à cela? Et en final, le dixième point, une meilleure espérance. Vous pouvez mettre au lieu de Hébreux 11, 37, c'est aussi Hébreux 11, 35 si vous voulez, mais littéralement c'est Hébreux 7, 19. Qu'est-ce que vous y trouvez là dans Hébreux 7, 19? Verset 19. La foi n'a rien amené à la perfection. La loi, pardon. Excusez-moi. Ça va plus là. La loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous avons une meilleure espérance que ce qu'avaient les Juifs dans l'Ancien Testament. Et pour bien comprendre cette meilleure espérance, vous allez dans Hébreux 11, verset 35. C'est peut-être un passage qui vous pose une question. Il est parlé dans ce chapitre qui est consacré spécialement à la foi, aux hommes de foi, que des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous les connaissez, ces femmes. C'est qui? Citez-en au moins deux. Dans l'Ancien Testament. « des femmes reçurent leur mort par la résurrection. Évidemment, si vous voulez voir dans le Nouveau Testament, Marthe et Marie ont reçu leur mort qui était leur frère Lazare. Mais la veuve de Sarepta, son fils est mort et Élie l'a ressuscité. Dans les chapitres 17, 18, 19 du premier livre des Rois. Et puis une autre femme, la Tsunamite, qui avait fait une chambre pour le prophète Élisée. Et son fils est mort, et puis elle a prié, et Élisée est venu. Et la ressuscité. Alors, il y a des femmes qui ont reçu leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Qu'est-ce que c'est la meilleure résurrection? Oui, c'est la première. Et puis, c'est la résurrection de vie. Parce que ces morts qui sont ressuscités, ils sont ressuscités pour mourir après encore. Lazare est mort. Il a été ressuscité. Ce n'était pas la meilleure résurrection qu'il a eue. Il a été ressuscité. Les deux morts de l'Ancien Testament, il y en a même un troisième, quand on a jeté un cadavre, il a été ressuscité, hein, dans le chapitre 13 du premier livre des Rois. Mais ce sont des gens qui ont eu un prolongement de vie, mais qui sont quand même morts. Alors, la meilleure résurrection, c'est la résurrection d'entre les morts, comprenez-vous? Et c'est là qu'il faut avoir une bonne traduction, parce que dans certaines traductions, il n'est pas précisé cette résurrection d'entre les morts. C'est la première résurrection. Puis il y a la seconde résurrection, hein, qui est alors tout à la fin, c'est la résurrection des morts. Mais il y a une résurrection pour la vie et il y a une résurrection pour le jugement. Et la meilleure résurrection, c'est la résurrection pour la vie, quand le Seigneur vient. Et la première résurrection, elle est liée au retour du Seigneur. Alors, ce que nous attendons, ce n'est pas la résurrection finale que vous trouvez dans l'Apocalypse. C'est la première résurrection, une meilleure résurrection que celle qui était momentanée. Hein. Et ils ont préféré mourir que de vouloir vivre et d'être ressuscité pour mourir ensuite après. Voilà, nous avons insisté sur les caractères du retour de Christ, de la venue du Seigneur. Et maintenant, je voudrais savoir ce que vous avez vu.